Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama Suivez Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Nkwatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis sportifs de la VOA Africa.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et nous aurons aussi une réaction depuis Ouagadougou au Burkina Faso, donc avec Mahamadi Wena, journaliste sportif à la télévision nationale. Wena, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Quatrième journée de la Coupe de la Confédération, le week-end écoulé, dans le groupe A, tenu en échec par la Renaissance sportive de Berkane 0-0 et toujours pas parvenu à gagner. Le Raja Casablanca, tenant du titre, n'y arrive pas, mais reste encore en vie. Il y a de la polémique autour de l'arbitrage de cette rencontre officiée par le Camerounais Antoine Max Depadou Efa Essouma. Écoutons Patrice Carteron, le coach du Raja Casablanca.
Aujourd'hui, on a parfaitement maîtrisé du début à la fin. Au niveau défensif, on a été très bon. On n'a concédé aucune occasion de mémoire dans ce match. Et après, on a su aller chercher la victoire. On nous a ôté de manière très suspecte. Maintenant, pas grand-chose d'autre à dire, hein, si ce n'est que je suis extrêmement déçu pour les joueurs parce qu'ils méritaient de prendre les 3 points et on leur a privé de 2 points.
Alors Amine, d'abord sur le match en lui-même, même s'il est difficile quand même, il faut le reconnaître, de dissocier l'arbitrage du jeu à proprement parler. Alors dites-nous, quelle analyse vous faites de ce choc marocain en Coupe CAF?
Contrairement au match la semaine dernière où l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane avait bénéficié d'espace, de possibilités de créer de nombreuses occasions en contre face à une équipe du Raja qui était quasiment une traction avant, on a vu une équipe du Raja beaucoup plus disciplinée, mieux organisée sur le plan défensif, qui a su priver du ballon l'équipe locale. Et puis l'équipe du Raja qui s'est procuré quelques occasions nettes de scorer, contrairement à son adversaire. Du coup, il y a eu cette polémique, puisque visiblement, sur 3 des 4 occasions, il y a action litigieuse. Une main dans la surface de réparation qui n'a pas été signalée. Donc on laisse à l'arbitre, selon son critère, de voir est-ce qu'il y a volonté de toucher ce ballon avec la main ou bien c'est une action involontaire. Et surtout, 2 actions tendancieuses. La première où le capitaine du Raja de Casablanca est tiré par le maillot au point où il le perd sur un coup de pied arrêté. Et puis à la dernière minute de jeu, un but du Raja de Casablanca qui a été refusé pour une charge, entre guillemets, précédant la reprise de Mohsine Ajour. Du coup, le comité du Raja de Casablanca s'est réuni d'extrême urgence et il y a eu 2 courriers qui ont été envoyés l'un à la CAF et l'autre à la Fédération royale marocaine de football. Vous me direz pourquoi la Fédération royale marocaine de football? Tout simplement parce que le président de la Renaissance sportive de Berkane est aussi le patron du football marocain. Du coup, il y a du oui-dire à beaucoup de choses qui précèdent ce club depuis le début de sa campagne africaine. On parle de petits coups de pouce lors du match face à Diaraf. Lors du match aller, il y a un pénalty doublé d'un carton rouge qui avait été signalé en faveur du club marocain. Et puis lors de cette confrontation, on a senti un arbitrage maison. Un arbitrage qui nous rappelle le football des années 70 ou 80 en Afrique. Mais à l'époque, il n'y avait ni télévision, ni moyens de communication ultra sophistiqués qui permettent à toute la planète de voir toutes ces erreurs en direct et en instantané.
Merci bien Amine. En face, la Renaissance sportive de Berkane apprécie un bon point pris, du moins. C'est l'avis de l'attaquant burkinabé de cette formation marocaine. On écoute Alain Traoré.
C'est un très bon match. On a pris ces points qu'on voulait. Voilà, on voulait pas perdre surtout ce soir. Pour l'effet du jeu que les supporters des Raja ou les joueurs des Raja parlent, je pense que l'arbitre a sifflé bien avant qu'il touche au ballon. Et donc voilà, pour moi, il y a absolument pas but parce qu'il a sifflé bien avant et puis il y a faute. Je pense qu'il joue beaucoup avec le public, avec beaucoup d'effets du jeu. Je pense qu'ils ont beaucoup de qualités pour jouer au ballon au lieu de jouer avec des faits de jeu.
Alors, Amine, je reviens à vous. Le Raja crie hein, au vol et menace de se retirer de toute compétition africaine de la CAF, vous le disiez tantôt, et même de ne pas prendre part à la Supercoupe le 29 mars prochain. C'est assez fort quand même hein, comme décision à envisager.
C'est une décision jusqu'au boutiste. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à ce point. C'est peut-être un moyen pour faire pression sur la CAF pour avoir un arbitrage plus équitable lors de leurs deux dernières confrontations en phase de groupe. On rappelle que le Raja est peut-être dernier de sa poule avec 3 points sur 4 matchs, mais il a encore son destin en main, mais à condition de gagner à Marrakech dimanche prochain contre la Fania d'Agadir dans un match encore maroco-marocain, duel fratricide, et surtout de réussir après un bon coup en déplacement face à Otto Doyo au Congo. C'est une mission difficile pour l'équipe tenant du titre, d'autant plus que l'effectif est amoindri avec de nombreuses blessures. Ils n'ont pas le fond d'armoire, par exemple, d'autres gros cylindrés du football africain. Et puis, cette affaire d'arbitrage semble peser sur ce club qui, aujourd'hui, est en train de voir un peu toutes ses ambitions se disloquer. Il n'est que 3e du championnat marocain. Il possède certes 3 matchs en retard, mais il est à près de 15 longueurs de l'équipe du Wydad de Casablanca, qui est leader, il semble finir vers le titre. Il est quasiment hors jeu en compétition africaine, et puis il a surtout perdu le million de la compétition arabe qui se déroule en parallèle. Du coup, la dernière bouée de sauvetage, c'est cette coupe de la CAF, mais à une condition, c'est de pouvoir continuer dans la compétition, rechercher un arbitrage équitable, faire pression sur la CAF, faire de la polémique aussi, parce que c'est de la consommation interne auprès des supporters, c'est le moyen de détourner aussi l'attention de ce public par rapport un club dont la gestion n'est pas exemplaire en ce moment et qui est endetté. On parle de nombreux litiges à la FIFA, on parle d'une lettre qui a été adressée par la FIFA par rapport à un joueur ghanéen, Assamoah Yacoubou. Le club du Raja de Casablanca doit lui verser une partie de son reliquat de contrat puisqu'il y avait eu résiliation il y a quelques années, il y a 3 ans exactement. Et puis il y a une menace qui pèse sur le Raja de Casablanca qui pourrait perdre 6 points au moins s'il ne s'acquittait pas de cette dette.
Alors Jules, je le disais, l'Aigle Vert demande à la CAF d'enquêter sur ce match hein, sous peine de se retirer de toutes les compétitions africaines. Amine hein, essayait d'énumérer là hein, toute une liste, j'allais dire, de problèmes auxquels sont confrontés les Rajaouis. Alors dites-nous, est-ce qu'ils ne vont pas trop loin hein, pour des faits de match?
Oui, ben justement, parce qu'il y a une brèche qui avait été ouverte par le match du Sénégal et repris contre l'Afrique du Sud pour un problème de pénalty sifflé ou non sifflé. Et par la suite, on a vu la demi-finale de 1er de Agosto contre l'Espérance de Tunis où, manifestement, un but capital des Angolais avait été annulé à un moment où il se qualifiait automatiquement et personne n'a réagi réellement, officiellement. On voit mal comment, dans ce duel maroco-marocain, et le Raja peut avoir une suite à ses revendications. Donc, franchement, depuis quelque temps, on ne sait plus à quel point se vote.
Merci bien, Jules. Dans cette même poule A, les Congolais de l'AS Otto Doyo se sont emparés hein, de la 2e place en faisant chuter le Hassania Agadir 1-0. L'entraîneur du club congolais, Badra Adli Diallo, s'en réjouit.
C'était vraiment difficile. Les conditions climatiques étaient vraiment insupportables. Jouer 90 minutes à fond, se donner à fond sous cette chaleur, je pense qu'il faut le faire. Je considère ce match, je le présente comme celui du match aller. Le match aller, nous avons eu une mi-temps équilibrée. Nous avons eu nos chances de marquer. Ils ont eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Le football étant ce qu'il est, les ballons ne sont pas allés au fond. Et on a bien tenu. On a tenu la première mi-temps comme ils ont tenu cette première mi-temps aujourd'hui. À l'aller, nous avons pris 2 buts en 4 minutes. C'est des balles arrêtées. Aujourd'hui, nous avons pris un but sur balles arrêtées. Donc, c'est cool. Plus confort. Les objectifs restent les mêmes. Nous avons 6 points à prendre. Nous allons voyager contre Dakar. Nous allons tenter notre chance là-bas. Nous allons essayer de gagner. On va recevoir les Rajas aussi. Donc la même mentalité qu'on a attaqué celui-là.
Alors, Thierry, vos voisins congolais étaient annoncés un outsider dans ce groupe. Ils font désormais mieux que se défendre.
Oui, ils font mieux que se défendre. Je vous ai dit il y a 2 ou 3 semaines, après avoir vu 2 de leurs rencontres qui ne sont pas si mal, même si ils sont en train plutôt d'apprendre à ce haut niveau de la compétition africaine, ils ne sont pas si mal et ils pouvaient justement en se servant des erreurs commises au fur et à mesure qu'ils avançaient, essayer de s'améliorer et pourquoi pas de décrocher, de surprendre, on va dire, les favoris de la poule. Là, ils l'ont une nouvelle fois démontré, même si la suite sera très compliquée pour eux. On peut toujours espérer les voir faire quelque chose parce que visiblement, ils ne sont pas si mal que ça.
Merci bien Thierry. Les Marocains du Hassania expliquent en partie cette défaite par les conditions climatologiques et l'état du terrain, comme nous le dit leur coach Miguel Angel Gamondi.
D'abord, Hassania, c'est clair, il ne peut pas développer le même football qu'on a développé là-bas pour l'état de terrain. C'est un terrain qui est vraiment, c'est pas pour jouer un bon football. On joue à 14 heures avec la chaleur, l'humidité, c'est logique qu'on ne peut pas faire impression en haut, on ne peut pas faire les mêmes plans de jeu. Mais malgré tout, je crois que Hassania, il a mérité au moins avoir un point. Mais le football, c'est de mettre les ballons au filet. En compétition comme ça, et ça suffit de défendre bien, spécialement les ballons arrêtés. Et quand tu as une opportunité de marquer. Je félicite l'équipe de Otto. Ça reste encore ouvert. C'est vrai que pour nous, même si on avait arrivé à faire un match nul, c'était un bon résultat pour nous. Mais malheureusement, on commet un erreur, on paye cash. Il ne faut pas pleurer, il faut continuer.
Tous ces sons nous ont été recueillis donc par Amin Birou qui est avec nous ce soir. Alors dans le groupe B, l'étoile du Sahel a pris les commandes en enchaînant face à Enugu Rangers 2-0, pendant que le CS Sfaxien, désormais deuxième, partageait les points avec Salitas à Ouagadougou 0-0. Alors Mamadi Wena, c'est le troisième match nul de suite pour Salitas, qui n'a donc toujours pas gagné en Coupe africaine.
Oui, on espérait une première victoire de Salitas, surtout que comme match allé à Sfax, Salitas aurait pu gagner le match nul, c'était le but refusé pour une situation non liquideuse, mais enfin, Salitas avait la possibilité hier de remporter le gain du match, un match bien rempli, mais malheureusement, et cette équipe de Salitas a fait poser beaucoup de maladresse au niveau du secteur offensif, n'a pas concrétisé les occasions de but. Et vous savez, le niveau africain, là, il faut être opportuniste et concrétiser ces occasions, sinon on n'y arrive pas. Et c'est le résultat, je l'ai dit partout, Salitas qui ne parvient pas toujours à gagner, et même si ça fait 3 points dans ce groupe.
Alors, Mamadi, maintenant on reste avec vous. On se souvient que le président de Salitas, Yacouba Ouédraogo, disait entre-temps qu'il n'était pas sûr que son équipe atteigne ce niveau de la compétition africaine. Est-ce qu'ils y croient vraiment, les joueurs et les dirigeants, bien sûr?
Il faut dire que Salitas y croit, mais c'est un peu difficile pour cette jeune équipe, une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience. Une première saison au niveau du championnat national Burkinabé, une coupe du face à la clé, il n'y a pas de palmarès, il n'y a que le titre de champion de D2 et cette coupe du face, et déjà être déjà sur le plan africain dans la phase de groupe de la Coupe de la Confédération avec 3 équipes qui ont remporté beaucoup de titres sur le plan national comme sur le plan africain. Quand vous prenez le 7 Faxien, c'est une équipe de champion de Tunisie, telle coupe de Tunisie, c'est la Coupe de la Confédération, une Coupe CAF, et nous voulons dire que c'est 7 Coupes de champion du Nigeria, 6 Coupes du Nigeria, une Coupe d'Afrique, des états de Coupe, et le cas sportif du CAF, c'est une Ligue des champions, 2 Coupes de la Confédération, 10 Coupes de Tunisie, et 9 Ligues tunisiennes. Ça nous dit, le paramètre, je ne veux rien dire, mais il faut savoir que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, et Salitas est en train de faire ses premiers pas. Ce n'était pas évident, mais on regarde certains matchs, quand je prends le match aller entre les trois sportifs du Sahel et Salitas à Ouagadougou, comme le match d'hier, Salitas pourrait au moins avoir plus de points, peut-être une victoire pour mieux se positionner.
Merci bien, Mahmadi. Et non, on vous souhaite de passer une excellente soirée depuis Ouagadougou. Dans la poule C, belle opération pour les Ghanéens d'Asante Kotoko, dominateur des Zambiens de Nkana 3-0. Alors, Amdine, les Ghanéens d'Asante Kotoko renaissent et occupent désormais la deuxième place.
Tout à fait, Yacouba. Ils étaient quand même dos au mur, puisqu'ils occupaient la dernière place de ce groupe D. Mais grâce à cette belle victoire qu'ils ont acquise de fort belle manière, 3-0, ils chutent maintenant, hein, ils sont leaders, hein, parce que non, ils sont deuxième, c'est vrai.
Ils sont deuxième.
6 points à 1 point de Al Hilal. Je pense que c'est une très bonne opération. Cela veut dire quoi, Yacouba? Cela veut dire que rien n'est encore joué. Hein. On est dans un championnat. L'essentiel, c'est de pouvoir quand même négocier les matchs à domicile et de faire tout quand tu te déplaces pour ne pas perdre. Et les Ghanéens l'ont bien compris en gagnant de fort belle manière. Je pense qu'ils sont sur une bonne lancée et ils vont tout faire pour, pourquoi pas, choper la première place à El Hilal. Dans le cas contraire, essayer de construire la deuxième place pour pouvoir se qualifier, Yacouba.
William Dean, dans l'autre match de ce groupe C, vous le disiez, Al Hilal a pris le dessus sur l'autre club zambien de Zesco. Ce fut donc un mauvais week-end pour les clubs zambiens. Dans le groupe D, le Zamalek s'est relancé en s'imposant 1-0 sur le terrain des Angolais, disons, de Petro Atlético. Alors, Élysée, troisième, hein, grâce à cette première victoire, les Égyptiens ne sont qu'à 2 points des Algériens du Hussein D, nouveau leader.
Oui, bien évidemment, Yacouba, il faudra que les Égyptiens se reprennent dans ce groupe, surtout que depuis le début de cette compétition, hein, Zamalek peine, et cette partie c'est la bonne, puisque c'est une victoire en déplacement du côté de Luanda contre le Petro Atlético, qui n'était pas au mieux de sa forme, hein, il faut le dire, puisque les Angolais ont bien dominé cette explication, mais sans pouvoir marquer le but qui pouvait leur permettre de prendre les 3 points. Les Égyptiens étaient réalistes, mais le plus important, c'était les 3 points pour l'équipe du Zamalek qui s'est reprise dans ce groupe. Maintenant, les 2 prochaines journées s'annoncent donc difficiles, puisque il y a aussi les Algériens de Naoutende, les Algériens de Yamoutende, qui ont battu les Kenyans de Gomaya, qui étaient jusque-là leader de ce groupe. Mais à la grande surprise de cette équipe kenyane, qui est intraitable à domicile, n'a pas encore dit son dernier mot. Zamalek a l'effectif qu'il faut, puisqu'il y a déjà des joueurs qui ont signé, notamment Al Charim, qui a quitté l'Europe pour venir signer dans ce club-là, histoire de renforcer l'effectif qui a déjà sur place. Mais depuis le début de cette compétition, cette équipe peine. C'est une victoire qui fera du bien à ce club. Et on espère que ce club pourra bien sûr se qualifier pour les quarts de finale.
Merci bien, Élysée. La situation reste serrée dans les 4 groupes. Aucune équipe n'est officiellement qualifiée ni éliminée d'ailleurs. À l'heure actuelle, à 2 journées de la fin de la phase de groupe. Alors, en Ligue des Champions, samedi dernier, il y avait le match en retard de la 4e journée entre le CS Constantine et Ismaili. Dans le groupe C, les Algériens ont fait l'essentiel en s'imposant chez eux 3-2. Alors, Thierry, cette victoire permet au club algérien d'engranger 10 points désormais et de prendre la tête du groupe C devant le TP Mazembe.
Absolument. Les Algériens ont fait la bonne opération de ce groupe. Ils sont désormais en tête, vous l'avez dit, avec 3 points de plus que le tout-puissant Mazembe. Ils ont fait le plein de points chez eux. On se rappelle surtout de la gifle qu'ils avaient infligée justement au tout-puissant Mazembe Anglebert, 3-0 à domicile. C'est une très très bonne chose. Ça relance absolument le débat dans ce groupe. Le tout-puissant Mazembe d'ailleurs, qui me semble-t-il, doit se trouver en route pour l'Algérie, pour aller les défier justement. Donc ça s'annonce disputé dans ce groupe et ça le sera jusqu'au bout, même si les corbeaux de Lubumbashi gardent toujours intactes leur chance de qualification pour la prochaine étape de la compétition.
Merci bien Thierry. Et puis cette nouvelle triste, vous l'avez sans doute apprise au Gabon, un joueur du championnat de football est décédé samedi à Libreville après s'être écoulé en plein match lors de la 2e journée. On jouait samedi la 23e minute du match Missile FC à Kanda FC lorsque l'attaquant Akande Herman Ntsinga s'est écroulé, a indiqué le quotidien gabonais donc l'Union. Et après un massage cardiaque effectué par un médecin militaire, le joueur âgé de 30 ans est finalement décédé lors de son transfert vers l'hôpital. Et d'après l'Union, les 2 ambulances présentes sur les lieux n'étaient pas pourvues des équipements médicaux nécessaires pour sauver la vie du joueur. On écoute le ministre gabonais des Sports, Alain-Claude Bilibi.
Le championnat a démarré et il y a eu cet accident. Les joueurs d'abord sont les premiers concernés parce que tout simplement un joueur doit d'abord savoir son état de santé lorsqu'il s'engage à un club. Ça c'est la première responsabilité du joueur. La deuxième responsabilité c'est les clubs qui doivent en principe avoir une idée sur la forme du joueur par le canal des médecins qui tournent autour du club. C'est un accident qui est arrivé, ce n'est pas le premier. Nous avons connu 2 ou 3 ou 4 en championnat national. C'est peut-être l'occasion également pour les organisateurs, la LINA, FEGAFOOT, ministère de la Jeunesse et des Sports, de jeter un regard sur le sérieux et le degré de professionnalisme de tous ceux qui tournent autour de l'organisation du championnat.
Alors, Jules, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons de ce décès?
Non, pour le moment, l'enquête n'a rien dévoilé de nouveau, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les présomptions sont là et tout le monde pratiquement sait à quel niveau chercher les responsabilités. Il y a d'abord un mauvais suivi médical en club et une hygiène de vie mal contrôlée, comme l'a relevé le ministre, et sur les 7 cas que nous avons eu à déplorer ici en une dizaine d'années, et 4 sont morts à l'entraînement, 4 joueurs sont morts à l'entraînement. Il y a la logistique, bien sûr, médicale défectueuse en cours de rencontre. Il s'agit de 3 autres cas, dont un seul avait été victime d'un coup pendant la rencontre, tous les autres étant concernés par des crises cardiaques. Donc là, réellement, on a un drame, en relevant toutes ces défaillances, un drame commun qui nous revient toujours à la face. C'est le manque de professionnalisme, et donc un manque criant de professionnalisme et des dommages pour le football africain qui veut entrer dans la cour des grands ou rester dans la cour des grands. Il faudra faire un très grand effort sur ce plan.
Ligue des champions, mais cette fois-ci en Europe, c'est l'heure des huitièmes de finale à retour. Demain mardi, 2 rendez-vous cruciaux. Dortmund rêve de faire mentir les chiffres après avoir craqué 3-0 à Wembley. Les leaders de Bundesliga espèrent l'exploit contre Tottenham s'ils enregistrent le retour de leur buteur. Marco Reus, absent en Angleterre, les Allemands restent sur une embarrassante défaite à Augsbourg 2-1 en championnat vendredi. Alors Amine, très rapidement, c'est le foot, tout est possible, on le sait, mais là, ce sera quand même compliqué pour les Allemands.
Très compliqué pour les Allemands, d'autant plus qu'ils avaient craqué en 45 minutes à Wembley face à une équipe de Tottenham à qui manquaient des joueurs du calibre de Harry Kane. C'était au match aller, Harry Kane qui a récupéré. Et puis une équipe allemande en baisse de régime en Bundesliga. Avant la trêve, elle avait 9 points d'avance face au Bayern Munich. Aujourd'hui, elle est à ex-aequo avec le club bavarois. Une période très compliquée pour une des équipes les plus étrayantes du début de saison. Mais il est vrai, en Europe, les titres se gagnent entre février et mai.
Merci bien, Amine. Dans l'autre match, le Real Madrid, triple tenant du titre, doit chasser les doutes contre l'Ajax Amsterdam 2-1. À l'aller, on se rappelle encore. Alors, Amdine, il ne reste qu'un 14e sacre en Ligue des Champions pour sauver la première saison de Santiago Solari. Et cela passe d'abord par une victoire face aux Néerlandais à domicile.
Tout à fait. Match nul. Le plus titré, quand même, d'Europe avec 14 titres, vous l'avez dit tantôt. Bon, pour ce match, le Real va bien négocier cette rencontre, puisque après ce qui vient de se passer avec les 2 défaites lors des Clasico, je pense que le Real va passer, surtout qu'il ne reste plus que la Ligue des Champions pour pouvoir sauver cette saison. Donc, ballotage favorable au Real Yacouba.
Merci bien, Amdine. Mercredi, on aura Paris Saint-Germain, Manchester United 2-0, on se rappelle, à l'aller pour les Parisiens, et Porto AS Rome 2-1 pour les Italiens à l'aller. Et donc, Sporama qui va en même temps s'achever ici. Je rappelle qu'on était avec Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon, Élisée Nkwatine depuis Boïcon au Bénin, donc Thierry Kambundi de Top Congo FM était avec nous depuis Kinshasa, Amdine Si à Dakar, Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc, et Mahamadi Ouena, notre confrère de la télévision nationale du Burkina Faso, qui était également avec nous dans Sporama. À la réalisation, Michel Mori, Joseph Morissin, c'est bien ça? Joseph Morissin, je me trompe donc. Et filmé Koya Weda, Yacouba Wedraogo devant ce micro. On se retrouve la semaine prochaine.